Sunderlight Production.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Nous allons vous parler avec Camille, qui co-anime l'épisode avec moi, d'une notion essentielle au maintien d'un état de santé optimal et qui est en grande partie liée à la qualité de notre alimentation, à savoir l'équilibre acido-basique. C'est quoi exactement l'équilibre acido-basique? Pourquoi c'est important d'avoir un équilibre acido-basique? Comment faire les bons choix alimentaires? Nous allons répondre avec Camille Pic à toutes ces questions. Bonne écoute.
Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandianini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
Bonjour Camille.
Salut Arnaud.
Bah écoute, j'espère que tout va bien pour toi puisqu'on va parler d'une notion essentielle aujourd'hui au maintien de l'état de santé optimal et en grande partie liée à la qualité de l'alimentation, c'est-à-dire l'équilibre acido-basique. Qu'est-ce que tu peux nous dire précisément? C'est quoi exactement l'équilibre acido-basique, Camille?
Bah ouais, en fait, l'équilibre acido-basique, c'est la balance entre le taux d'acidité et le taux d'alcalinité de notre organisme. Donc, comme tu le disais en intro, hein, il est principalement influencé par notre alimentation. Chaque aliment qu'on mange, rentrant dans une de ces trois familles, il est soit acide, soit neutre, soit basique. Donc, selon le type d'aliment qui prédomine dans notre assiette, notre sang et nos tissus sont eux aussi plus ou moins acides.
Mais comment ça peut se mesurer?
Alors, c'est super facile. On peut le mesurer soi-même grâce à des... En fait, la mesure donc, du pH hein, pour l'équilibre acido-basique, on vient bien mesurer son pH. L'être humain n'est pas censé avoir un pH neutre. Hein, c'est pour le jet de douche. Et les petits pH, c'est grâce à des bandelettes réactives urinaires qu'on trouve soit en pharmacie, sinon on en trouve sur Internet aussi.
Donc, il n'y a pas de moyen, par exemple, par une prise de sang, de mesurer l'acidité du corps. C'est uniquement, effectivement, par ces bandelettes réactives urinaires.
On peut aussi mesurer, on mesure les taux de bicarbonate dans les gaz du sang, dans une prise de sang. Donc, on peut demander à son médecin aussi généraliste hein, de regarder ça.
C'est plus
ça.
Simple, effectivement, avec ces bandelettes.
Mais vraiment, le plus simple, c'est de s'acheter des bandelettes. Et ça permet en plus, parce que la prise de sang, si tu veux, c'est toujours une photo à un instant T dans notre organisme. Donc, elle est très importante et on ne peut pas passer à côté. Hein, mais par contre, l'avantage des bandelettes, c'est qu'en fait, on peut tester un peu tous les jours.
Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de ton alimentation, tu peux voir les réactions sur justement l'équilibre?
Exactement. Et du coup, c'est hyper intéressant de le regarder pour un peu mesurer justement son acidité, son taux d'acidité le matin. Donc ouais, justement les bandelettes, ce que je voulais te dire aussi, c'est ça s'utilise le matin. En général, on en utilise deux, une sur la première urine du matin qui est censée être la plus acide parce que c'est vraiment toute la nuit où les reins ont bossé. Et ensuite, on peut faire un deuxième contrôle quelques heures après. On ne teste pas, par contre, juste après les repas. Il faut au moins 2 heures après les repas pour bien tester.
Intéressant. Et tu as parlé tout à l'heure sur le fait de comment le mesurer. Tu as parlé du pH. Alors, c'est quoi un bon pH?
Alors, en effet, donc un bon pH, c'est, donc je le rappelle, hein, c'est la mesure du niveau d'acidité du corps. Il est sur une échelle de 0 à 14, ce pH. Idéalement, le pH du corps humain, il doit être à 7. 7, c'est vraiment parfait. En dessous de 7, on parle de pH acide, donc on est en acidose. Et au-dessus, il est basique, on parle alors d'alcalose, parce que le pH est trop alcalin.
Et ça, tu le mesures donc sur les bandelettes, c'est par couleur, je crois, de mémoire, non, en fonction de la réactivité de l'acidité de l'urine, en fait, du corps, ça va te dire si l'équilibre acido-basique est trop acide ou trop alcalin, c'est ça?
Exactement, ça ressemble un peu... un nuancier, je ne sais pas
un
si
nuancier,
on peut...
Un nuancier, c'est ça, chercher le mot.
si on aime Valérie Damido, on peut aussi faire un nuancier avec son pipi. Et du coup, c'est plein de petites couleurs. Et d'ailleurs, il y a des bandelettes qui mesurent d'autres choses, hein, qui peuvent mesurer aussi le taux de protéines, par exemple, si on a trop de protéines, etc. Ça, c'est à regarder quand vous les achetez. Mais en général, ouais, il y a plein de petites couleurs et on se fie au nuancier pour regarder si on est dans la bonne couleur, si on est un petit peu trop clair ou si on est un petit peu trop foncé. C'est vraiment assez facile à lire, quoi.
Donc, alors, on peut mesurer très facilement et très rapidement son équilibre acido-basique, mais pourquoi c'est important d'avoir cet équilibre-là et d'arriver sur une note d'environ 7 qui est parfait au niveau de son équilibre, son niveau d'acidité. Et pourquoi c'est si important pour le corps humain ?
Bah, en fait, c'est très très important de bien équilibrer son pH, parce que l'équilibre, il est essentiel au maintien d'un état de santé optimal. Donc, en particulier pour prévenir des troubles tels que l'ostéoporose, les troubles ostéotendineux, mais aussi les inflammations. En fait, hein, un pH trop acide, ça veut dire qu'on peut avoir mal aux articulations, qu'on peut être plus sujet aux tendinites, par exemple. On peut être aussi plus irritable, plus fatigué, en fait, et être fatigué de manière chronique. On a quand même des régimes alimentaires qui sont super acidifiants. On boit, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, mais c'est vrai qu'on boit pas mal de café.
C'est mon cas aussi. Hein. C'est clair.
Si on consomme de l'alcool, c'est très acidifiant. Le fromage, la charcuterie, la viande rouge, enfin tout ce qui fait un peu partie du régime français traditionnel, c'est aussi plutôt acidifiant, quoi.
Ce qui veut dire, Camille, c'est que je te posais la question pourquoi c'est important d'avoir cet équilibre-là, mais ça veut dire que le choix de son alimentation a un impact direct sur cet équilibre. En plus de faire attention à ne pas ingurgiter des aliments acides, il doit y avoir forcément une liste, c'est qu'il faut aussi faire le bon choix sur son, c'est pas forcément un régime, mais sur son hygiène de vie, en fait.
Complètement. Alors, il existe sur Internet des tonnes de listes des aliments qui sont potentiellement acidifiants. Il y a un indice qui s'appelle le PRAL, c'est le Potential Renal Acid Load, donc qui va définir la charge rénale subie, en fait, lorsqu'on mange trop acide. Mais donc ça, on peut le googler, hein. Mais si on veut se simplifier la vie, en gros, on se dit que les fruits, les légumes, les herbes aromatiques, c'est des aliments basiques. Donc ça se consomme à volonté, surtout au petit déjeuner, parce que en général, donc au petit déjeuner, c'est là où notre pH est le plus acide.
Alors justement, là, on prend un exemple. Donc on se rend compte avec ces bandelettes que notre corps est en acidose. Qu'est-ce que l'on doit faire ?
Alors, si on voit qu'on est en acidose, donc le matin, ce qui peut être pas mal, c'est au réveil, petit jus de citron pressé avec un petit peu d'eau qu'on a fait bouillir, mais qui est un petit peu tiède maintenant. C'est super bon pour le pH et pour le foie. C'est pas parce qu'un aliment a un goût acide qu'il est acidifiant. Donc, par exemple, le citron est complètement alcalin. Après, dans la journée, pareil, hein, on peut manger, comme je disais, des légumes verts, de la salade, du potiron, de la courge, de la pomme de terre. Et en protéines, on peut prendre du tofu ou du poulet qui sont beaucoup moins acidifiants que de la viande rouge ou de la charcuterie. Un autre truc sur lequel il faut être vigilant, c'est sa consommation de sel. Le sel également acidifie beaucoup l'organisme, donc on évite de trop saler, bien sûr.
Et c'est vrai que le sel, on le retrouve... Le sucre, qui a été un de nos sujets autour d'un épisode du podcast, mais le sel, on en retrouve partout, en fait. Partout, c'est incroyable.
Ouais, dans toutes les préparations et tous les produits préparés, tout est extrêmement, extrêmement salé. Il faut vraiment... Enfin, ça vaut le coup de se pencher sur les étiquettes, mais des fois, la consommation journalière de sel en apport recommandé, on l'a fait sur un sandwich, quoi. Donc, vraiment, tant que faire se peut, essayer de se faire soi-même ses plats, ses sandwichs, sa cuisine, ça évite, en fait, le sel. Et puis après, tous les conservateurs aussi qui peuvent être contenus dans les préparations qui sont toutes faites, quoi.
Et on parle souvent on a souvent parlé, en tout cas, dans les épisodes passés autour de cette capsule santé, tous les deux, Camille, de smoothie. S'il y avait, justement, un smoothie à mettre en avant quand tu es en acidose, ça serait quel type de smoothie ?
Un bon smoothie qui marche bien pour l'acidose, c'est du carotte orange pomme avec quelques feuilles de menthe dedans. C'est très simple, on trouve de la carotte, de l'orange et de la pomme à peu près tout l'hiver, et c'est vraiment, c'est super bon pour le goût, donc c'est ma petite recommandation.
Et tout ce qui est, donc là c'est de l'alimentation que l'on peut préparer, on peut se préparer un smoothie, comme tu l'as dit, on peut se faire un repas à base de tofu et de poulet, mais s'il y avait des compléments qui pouvaient t'aider, t'accompagner lorsque tu es en acidose, est-ce que tu auras des exemples à donner ?
Ouais, il y en a un que j'ai trouvé en faisant mes recherches pour l'écriture du podcast et qui a l'air vraiment, enfin, dans la composition, que je trouve très bien, et le laboratoire est hyper réputé, c'est les laboratoires L'Écuyer, et ils ont créé un complément qui s'appelle Alcaflore, où dedans on retrouve du zinc, du magnésium, de la manganèse et qui favorise vraiment un bon pH et donc un bon équilibre acido-basique. Donc pareil, en cas de déséquilibre, je pense que Alkaflor, ça m'a l'air hyper bien.
Et à l'inverse, je t'ai posé la question quand le corps était en acidose et à l'inverse, quand le corps est en alcalose, ce serait quoi les symptômes ?
Déjà, c'est beaucoup plus rare. Hein. On est en général, l'alcalose, elle va plus se produire si on est vraiment venu complètement se vider de tous ces minéraux et de tous ces nutriments en prenant des médicaments ou des choses comme ça. Mais ça peut arriver. Donc, les symptômes, c'est souvent on se sent irritable, on a des crampes, des soubresauts ou des picotements. On peut aussi faire un peu d'hyperventilation. Là, si c'est le cas, vraiment, je vous invite à vous rapprocher de votre médecin traitant pour creuser ouais, quand même
presque,
un peu.
Ce que tu décris, c'est presque quand même des carences avérées, quoi.
Clairement, clairement, et c'est pas normal d'être en alcalose. Donc voilà, il faut voir avec lui ce qui se passe, il faut peut-être creuser davantage. Et lui, il peut aussi prescrire des perfusions à base d'électrolytes avec du sodium, du potassium, etc. pour rapidement corriger ça, quoi.
La seule recommandation que tu peux faire à ce niveau-là, c'est de se rapprocher de son médecin où il y a quand même une alimentation qui permettrait de basculer et de redescendre le fait que tu sois alcalose à ce moment-là. Ou des compléments, comme tu as pu nous
là-dessus,
conseiller.
Là-dessus, ouais, pareil, hein, le même complément, l'Alkaflor, vient aussi apporter justement des bons minéraux là-dessus et vraiment essayer de manger des légumes, des fruits, des potirons, de la pomme de terre, des protéines aussi, soit végétales, soit animales. Et essayer de rééquilibrer un peu son régime avec un maximum d'aliments non transformés.
Et est-ce que là où le podcast, au moment où il est diffusé, est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là que l'on doit faire attention ou contrôler justement son équilibre acido-basique, ou tu préconises plutôt d'avoir ce test-là, cet auto-test, on va dire ça comme ça, que tu peux faire très facilement, comme tu nous l'expliquais, régulièrement dans l'année?
Moi, je trouve ça intéressant de le faire de manière régulière, pas tous les jours, hein, mais... en particulier quand on est sportif, en fait, parce que il y a quelque chose qu'on, enfin aujourd'hui on a beaucoup parlé d'alimentation, en fait, mais il y a d'autres choses hein, qui viennent perturber aussi notre équilibre acido-basique, notamment le stress ou le sport à très haute dose qui peut être aussi facteur d'inflammation et donc d'acidification pour notre corps. Donc que ce soit en fait dans des périodes de décharge ou des périodes de charge. En entraînement, c'est intéressant de tester pour voir comment notre pH varie. Ça nous permet aussi de mieux nous connaître et du coup d'éviter de mauvaises surprises où si on mange parfaitement mais qu'on a des charges d'entraînement qui sont trop élevées et qu'on est stressé en plus de ça, on peut aussi se retrouver avec un pH qu'on va appeler déréglé. Donc assez régulièrement, moi je pense... si je dois faire une recommandation, mais je pense peut-être 2-3 jours par mois d'affilée, tester, regarder où on en est, en particulier si on vient à modifier des choses dans son régime alimentaire ou dans sa pratique sportive, hein, ne pas hésiter à en faire. En général, les bandelettes, elles sont vendues par 100, donc on a de quoi faire largement si on teste plusieurs fois dans l'année.
J'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que la couleur de l'urine est un indicateur de trop acide ou trop alcalin, ou alors ça n'a rien à voir?
Si c'est trop acide ou trop alcalin, je pense que ça ne se voit pas à l'œil nu. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir, en gros, que ta première urine doit être le matin plutôt foncée. C'est le signe du bon fonctionnement des reins. Et en fait, c'est important de regarder quand même la couleur de ces urines parce que justement, si le matin, l'urine est quasiment transparente sur la première miction, c'est un peu inquiétant. Et il faut en parler à son docteur. En revanche, après...
Ça veut dire que les reins ne font pas le travail... Pas correctement ?
C'est une des possibilités, ouais. Après, ça peut être aussi... c'est plus rare, mais il y a des gens qui ont tendance aussi à beaucoup, beaucoup trop boire. De mémoire, ça s'appelle de la potomanie. Et à boire, nous, on a très souvent en ultra, tu vois, peur de se déshydrater. Et du coup, parfois, on se retrouve à un peu boire trop d'eau. Et le problème, c'est que il faut pas croire que le corps peut accepter de boire 7 ou 8 litres d'eau par jour. Il n'est pas fait pour ça non plus.
C'est ça.
Donc, il faut quand même surveiller ça. Donc, les urines dans la journée doivent être plus claires. Après, elles doivent être quand même normalement légèrement teintées. Il faut pas faire pipi de l'eau. hein, de manière très simple. Voilà, donc ça, c'est à surveiller quand même tout au long de la journée. Et pareil, sur les épreuves sportives, hein, il faut vérifier qu'on urine régulièrement, mais pas trop non plus. Sinon, ça peut être signe qu'on s'hydrate un petit peu trop et du coup, on met une charge de stress supplémentaire au corps qui, en plus de devoir fournir un effort, en plus de devoir transpirer, doit en plus gérer cette surcharge d'eau, donc qui va vous demander régulièrement de la rejeter, quoi.
Ou à l'inverse, si tu ne vas pas uriner pas du tout au bout de plusieurs heures d'effort, c'est signe de déshydratation. Et là, tu peux vite y remédier. Ouais,
tout à fait. Et je lisais un livre qui s'appelle « Good to go, how to eat, sleep and rest like a champion » qui a été écrit par une Américaine qui s'appelle Chrissy Achawanden et qui vient un peu débunker, expliquer énormément de mythes sur la nutrition et l'hydratation sportive. Et en fait, elle explique que sur les Ironman, par exemple, il y a beaucoup plus de cas de gens qui ont bu trop d'eau et du coup qui n'ont plus assez de sodium dans le sang.
Ouais, c'est ça.
Qui en fait font des malaises et c'est des malaises extrêmement dangereux. Et on peut il y a des concurrents d'Ironman qui sont décédés suite à ça. Versus de gens qui sont déshydratés parce qu'en fait il y a tellement à boire et que enfin sur les épreuves et qu'en plus les gens d'eux-mêmes boivent énormément et du coup se retrouvent en surhydratation si on peut dire. Et
c'est ça, exactement.
Donc voilà, donc ça c'est quelque chose aussi pareil hein, au-delà de l'équilibre acido-basique, mais c'est quand même quelque chose à surveiller quand on fait du sport quoi.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en conclusion sur ce thème-là, c'est-à-dire comment conserver, comment garder un bon équilibre acido-basique? Si tu avais une conclusion à faire, Camille, ça serait laquelle?
En fait, c'est un peu la conclusion qu'on fait sur beaucoup d'épisodes, hein, mais répéter n'est pas recommencer, il paraît. Donc du coup, moi, je dirais il faut privilégier vraiment une consommation quotidienne de fruits et légumes frais, donc de la bonne qualité et vraiment de la quantité, afin d'améliorer son statut acide-base et favoriser le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, c'est aussi simple que ça.
Du smoothie et du smoothie.
Exactement.
Écoute, un grand merci, Camille. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.
À bientôt, Arnaud. Salut.